Patricia Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère départementale dans les Hautes-Alpes, déléguée à l'aérodrome de Gap-Talar et à l'égalité entre hommes et femmes. Justement, on en parle de l'égalité entre femmes et hommes, parlons-en. Le gouvernement va consacrer en 2020 plus d'un milliard d'euros sur ce sujet. Alors, c'est plus d'un milliard d'euros sur un budget qui sera transversal. On parle de différentes actions qui se dérouleront entre différents ministères. Que la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes s'installe au niveau national, on peut le comprendre. Au niveau départemental, qu'est-ce qu'on peut y faire?
Bah, je pense que d'abord, je me réjouis que le président du département ait créé cette délégation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que c'est une problématique sociétale qui concerne tout le monde, qui concerne au niveau national, puis concerne aussi nos territoires ruraux de montagne, comme les Hautes-Alpes. Donc, je dirais que le plan d'action qui va être proposé pour 2020, on avait déjà mené quelques actions en 2019, va être aussi avec une forte connotation transversale. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'isoler une délégation. Même si cette délégation a bien sûr autorité à mener des actions, je pense au 8 mars, je pense au 25 novembre, des jours un peu emblématiques pour la lutte de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi de travailler entre les réalités. On a par exemple un sujet qui nous touche de près, ce sont la lutte contre les violences faites aux femmes, les fameux féminicides, les tristes et dramatiques féminicides dont on parle beaucoup, et qui sont effectivement, qui doivent nous alarmer. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous sommes en train de réfléchir avec mes collègues conseillères départementales et en tout premier lieu Marie-Noëlle Didier, la vice-présidente aux solidarités, pour voir comment mobiliser. On a quelques pistes déjà de réflexion que nous présenterons probablement à la prochaine plénière ou à la plénière de décembre, des pistes de ce travail transversal que nous pouvons mener sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis, il y a aussi l'égalité professionnelle, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, où le département travaille à l'interne. Donc là, on est sur le service public, une collectivité territoriale, mais on souhaiterait aussi développer une action, probablement, on verra avec des entreprises, avec l'UPE, un petit peu sur l'égalité, comment c'est vécu dans le département, comment ça se traduit. Et puis, c'est un beau challenge, je vais dire, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Moi, je serai paritaire, donc je pense que ça doit se mener ensemble. Et notre département, de ce point de vue-là, peut être exemplaire. Je m'en félicite.
Par rapport au féminicide, vous abordiez cette question. Il y a déjà des mesures qui sont mises en place, notamment le phénomène d'éloignement, éloigner la femme et notamment les enfants quand elle est victime justement de violences conjugales. Ça existe déjà dans les Hautes-Alpes, ça a été mis en place. On peut aller plus loin encore?
Oui, je pense que sur les violences faites aux femmes, c'est un combat qui remonte. Je crois que la première campagne de lutte contre les violences faites aux femmes était en 92. Je crois que c'est Michel André qui l'avait initié sous le gouvernement Rocard. Et c'était déjà un grand pas que d'en parler. Je pense que 30 ans après, bientôt, on se rend compte que les moyens ne sont pas suffisants. Et c'est bien le problème. Si on prend l'exemple de l'Espagne, on voit bien que l'Espagne a considérablement avancé sur ce sujet-là parce que les moyens financiers ont été mis sur la table, si je puis dire. Donc là, on peut bien sûr aller plus loin. Il y a l'éloignement des femmes, la prise et le CIDF, fait un très gros travail de ce point de vue-là. Mais je dirais qu'il y a aussi, on peut réfléchir sur d'autres pistes, l'éloignement aussi du conjoint violent. Et que la femme puisse garder l'appartement, on n'en est pas encore là, mais ce sont des pistes qu'il faut travailler, puis mieux cerner le problème et mettre des moyens sur les bracelets. Il y a un panel de dispositifs qui ont été mis en place en Espagne qui marchent pas fort bien, mais ça a un coût.
Ça a un coût. Est-ce que le budget est suffisant dans les Hautes-Alpes au sein du conseil départemental pour avoir cette ambition?
Oui, au sein du conseil départemental, oui, nous avons les maisons des solidarités, on a un fort relais avec le centre d'information du droit des femmes et des familles. Donc de ce point de vue-là, oui, comment on peut améliorer déjà au niveau de l'observatoire, d'un observatoire, en rentrant ces données-là, pour savoir combien de femmes sont touchées, mieux ciblées, est-ce que c'est en milieu urbain, est-ce que c'est en milieu rural, mieux connaître dans notre département déjà cette problématique-là. Et puis ensuite, mettre les moyens. Mais ça, on peut le faire, il s'agit de sensibilisation, mais c'est une politique d'État. Moi, je me réjouis que le gouvernement ait annoncé, même si j'étais un peu déçue après le Grenelle des violences consacrées aux violences faites aux femmes de cette rentrée. J'espère que donc 2020 sera une année où le gouvernement mettra les moyens.
On a posé cette question sur l'alpin.com. Alors, ça n'est pas un sondage, on va dire que c'est un résultat à l'instant T. Pensez-vous que la France parvienne un jour à l'égalité entre les femmes et les hommes? Voilà le résultat des internautes d'Alpe 1, non à 60%.
Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Voilà.
Bon, finalement, ça laisse de l'espoir pour vous.
Absolument. Oui, ça a considérablement avancé sur beaucoup de sujets. D'autres sujets, non. Mais sur beaucoup de sujets, ça a avancé.
Tout à fait d'accord avec les propos d'Yvan Chex. Vous aviez réagi après l'intervention du directeur de l'Agence de développement économique et touristique des Hautes-Alpes en septembre dernier sur Alpe 1. Il demandait, lui, à lutter contre la concentration de la population sur les agglomérations, notamment guépensaises, et dans les bourgs, au détriment des communes périphériques. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que l'agglomération Gap-Talard-Durance, en tout cas son cœur Gap, a beaucoup trop vampirisé la population au détriment de la périphérie?
Non, je pense que ce n'est pas lié à l'agglomération de Gap-Talard-Durance. Je pense que c'est un grand mouvement de fond d'aménagement du territoire qui remonte à des années en arrière. On le voit bien, pour avoir travaillé sur ces problématiques-là, de concentration et de métropolisation, entre guillemets, flagrante au détriment des territoires ruraux.
La faute à l'administration française?
La faute à des choix politiques d'aménagement du territoire. Moi, je le dirais plutôt comme ça. On a eu des moments dans l'histoire, si on prend l'avènement de la loi Montagne, moi qui m'est chère de 85, c'est bien une construction politique, une façon de concevoir l'aménagement du territoire, c'est bien un concept politique. Là, on est plus du tout là-dedans, si je puis dire, on est dans des phénomènes de métropolisation. Donc, bien évidemment, nos agglomérations, enfin, l'agglomération de Gap-Talard-Durance n'y échappe pas. Mais ce n'est pas une volonté politique du président de l'aglo ou de maire, c'est une volonté politique nationale qui n'est pas en faveur du développement des territoires ruraux.
Il n'y a pas qu'une volonté étatique, gouvernementale. Il y a quand même l'aménagement du territoire, c'est divisé entre beaucoup d'institutions, le conseil régional, le département aussi, fait partie de cette politique.
Mais prenez la loi NOTRe. La NOTRe, c'est bien le Parlement qui l'a votée, même si le Sénat a tout fait, si je puis dire, pour amender les caractéristiques qui étaient très défavorables aux territoires ruraux et territoires ruraux de montagne, mais c'est bien une politique nationale qui est impulsée. Ensuite, les différentes strates des collectivités, si je puis dire, s'adaptent. Et c'est extrêmement compliqué de s'adapter, parce que c'est un mouvement de fond, on le voit bien, et c'est dénoncé, entre guillemets, par des politiques au plan national.
Mais c'est un mouvement qui est déjà en place et qui n'ira qu'en s'accentuant.
Moi, je ne crois pas à la fatalité. Je pense que l'action politique, c'est aussi cela. C'est aussi de pouvoir dire à un moment, là, on n'est pas d'accord et on propose autre chose. C'est ça la politique aussi.
Et c'est quoi qu'il faut proposer? Autre chose, mais quoi?
Une autre vision d'aménagement du territoire. Un équilibre entre le développement normal, entre guillemets, des métropoles, et puis un développement avec des moyens financiers des territoires ruraux et de la montagne, des territoires de montagne, parce qu'on sait que c'est une spécificité, qu'on ne sait pas un territoire rural comme un autre, un territoire rural de montagne. Donc je crois que là, c'est une question éminemment politique. Et c'est sûrement le côté noble, je veux dire, de l'action politique, c'est de proposer autre chose.
Alors, un tout autre sujet, on parle de l'aérodrome de Gap-Talard. On n'entend plus parler de cette liaison par voie aérienne entre Paris et Gap. A-t-elle été définitivement abandonnée?
Là, il faudrait poser la question à ceux qui l'ont initiée.
C'était la CCI et l'UPE.
Oui, je crois que c'était une proposition qui avait été faite. Bon, moi, j'avais répondu en son temps en ce qui concernait l'aérodrome, ou ce que ça nécessitait en tous les cas comme aménagement, sur l'aérodrome, qu'il n'était pas possible d'envisager. Je crois qu'actuellement, il y a un autre projet qui est en cours, qui est dans cette lignée-là aussi, de désenclavement du territoire par les voies aériennes, qui me semble beaucoup plus... Voilà, c'est R à faire, tout à fait, qui est initié par la CCI. Je pense que c'est un beau projet. C'est une sorte de blabla car, c'est du blabla fly, je crois. Mais ça va être présenté sur l'aérodrome. On est ravis de recevoir la CCI et l'UPE à ce sujet-là, sur cette problématique-là. Je pense que là, on est plus dans ce que l'aérodrome peut supporter comme au niveau de l'infrastructure et en même temps sur le souhait qu'avait la CCI de désenclaver le département par voie aérienne.
Donc il n'y a pas besoin de travaux pour accueillir RFR?
Non, pas besoin de travaux, non, il n'y a pas besoin de travaux et puis ça peut effectivement, je crois sincèrement, répondre à un besoin des entreprises.
Les travaux d'ailleurs qui se poursuivent sur l'aérodrome de Gap-Talard, il y en a encore pour quelques semaines?
Oui, alors cette année on est à la quatrième année là, d'investissement. Alors, c'est des investissements qui sont intéressants, je dirais, parce qu'on a eu une phase d'abord de remise à niveau en 2015, 2016, 2017. Et puis là, 2018, 2019, 2020 et 2021, et j'espère que ça continuera, on est vraiment dans une phase de modernisation de l'aérodrome. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que c'est comment ce bassin d'emploi qui représente quand même 300 emplois, c'est pas presque 300 emplois, c'est pas rien sur le département, comment on peut accompagner, nous, le développement des entreprises, des associations, du sport aérien, de tout ce qui s'y pratique, parce que c'est une activité aérienne qui est extrêmement aéronautique, qui est extrêmement riche, comment on peut accompagner par des infrastructures pérennes et fiables, comment on peut accompagner ce développement. Donc là, de ce point de vue-là, les travaux, effectivement, vont se finir pour cette année.
Combien les travaux? Combien les travaux ?
On en est à peu près un peu plus de 200 000 euros d'investissement sur la plateforme Gap Talar, ce qui est un bel investissement. Avec des projets, bien évidemment, là on va finir, le traitement des fissures c'est fait, donc on a encore un parking d'aéronefs à terminer, des aménagements du côté de la maison de l'air, parce qu'on s'occupe bien sûr des infrastructures lourdes, hein. Je parle des taxiways, de la piste, des pistes d'atterrissage, mais aussi de l'accueil. De l'accueil aussi bien des aéronefs qui se posent, donc des pilotes ou des personnes qui accompagnent, qui sont dans les aéronefs, qui se posent. Et puis, on a fait une petite salle pilote, par exemple, au sein de la maison de l'air, mais aussi pour accueillir les gens qui viennent voir les avions, dont beaucoup d'enfants. Et moi, je me réjouis de voir, on a dessiné un petit parcours vélo. Alors, ça paraît être rien du tout, mais c'est énorme. Ça a été fait à l'interne du service de l'aérodrome. Il y a une super équipe. Et on voit qu'il y a un engouement pas possible. Et c'est super sympa de voir les gens, les enfants s'amuser et les gens pouvoir profiter de ce spectacle.
L'aérodrome doit être rendu à son public ?
Oui, d'abord à ses usagers, avec bien sûr une gestion du département, une gestion rigoureuse et en même temps dynamique, extrêmement dynamique. Et puis, bien sûr, à ceux qui visitent l'aérodrome, qui ont aussi ce rêve de vol d'Icare, en quelque sorte, et qui viennent voir voler ou sauter des parachutes ou des ballons ou autre chose. En tous les cas, c'est quelque chose qui est très attractif, donc c'est important.
Parlons des municipales. Est-ce que vous allez faire partie de cet élan qui s'est installé il y a quelques mois au sein du département ? Avoir des conseils départementaux, avoir des ambitions de municipales. Il y a eu Bernadette Saunemont, on peut parler de Jean-Marie Bernard dans le Dévoluy, Carole Chauvet, Marc Viossa et vous ?
Alors écoutez, moi c'est une question que j'habite d'abord une petite commune qui s'appelle Fouillouse, que j'aime beaucoup, depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que c'est une question qui jusqu'à maintenant ne se posait pas du tout. Ce n'était pas un automatisme. Je ne dis pas d'ailleurs pour mes collègues que c'était un automatisme. C'est sûrement En tous les cas, moi, c'est une question qui ne se posait pas. Et puis, il y a eu des petits soucis quand même. Hein. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, des petits bugs de la part du maire de Fouillouse, qui n'incrimine absolument pas son conseil municipal, qui, je trouve, a une gestion dynamique et intéressante de la commune ces 5 dernières années. Mais en tous les cas, son maire, moi, qui m'interroge, et du coup, qui ont interrogé, je pense, des Fouillouzards, qui sont venus me demander, me solliciter. Et du coup, je me pose la question.
Quel point vous interroge dans la gestion du maire ? L'eau ?
Oui, l'eau, bien sûr. Mais je crois que ça a fait l'objet de pas mal de discussions et d'échanges sur les réseaux sociaux. Ça fait l'objet d'un article de vos confrères de la presse là-dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas accepter, quand même. Je sais que la fonction de maire devient difficile. Et là-dessus, je voudrais dire que ça demande effectivement une technicité, mais que n'importe quel maire a acquis ou acquiert par obligation. Et c'est bien normal, même si ça devient complexe. C'est un mandat qui est difficile, qui est sûrement le plus long, mais le plus difficile. Mais quand on vous dit qu'on n'a pas entendu, pendant 3 réunions où ça a été évoqué, un bureau exécutif, une commission eau assainissement, et puis un conseil communautaire, qu'on n'a pas entendu que les administrés de sa commune allaient voir leur eau augmenter de 300, presque 350%, plus de 300% d'augmentation annuelle, ça me paraît incroyable. C'est de la légèreté, là, qui n'est pas acceptable. Ce n'est pas un manque de professionnalisme, ce n'est pas un manque de technicité, ce n'est pas un manque de connaissances. Il n'a pas entendu, je reprends ses propos dans la presse, il n'a pas entendu l'augmentation de l'eau. Et ça, je trouve que c'est grave. Et ce qui est plus grave, en plus, c'est qu'une fois qu'on le lui a appris, donc j'ai compris que c'est la presse qui le lui avait appris, c'est qu'il n'est pas informé ses administrés. Donc, les administrés des Fouillouzards vont recevoir une note d'eau en fin d'année de plus de 300%, subissant plus de 300% d'augmentation, sans que le maire n'ait jugé, une fois qu'on l'a informé, il ne l'a pas entendu lui, en informer ses concitoyens. Là, je trouve que, franchement, c'est assez inexcusable.
Vous allez prendre votre décision définitive quand ?
J'attends un peu. Moi, ce que je souhaite pour Fouillouz, c'est l'union. Je pense qu'on est dans une situation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui n'est pas facile. Je pense que l'union fait la force et qu'on ne peut plus se payer le luxe maintenant dans des petites communes d'être divisées. Donc si effectivement, il y a une liste d'union qui pouvait se monter à Fouillouz avec d'anciens conseillers municipaux de cette mandature-là, avec des gens qui ont envie de s'investir et qu'on me sollicite, ce qui est pour le moment un petit peu le cas pour certains, oui, je pense que là, ça pourrait être intéressant de voir un projet pour Fouillouz. Mais en tout état de cause, je trouve quand même exagéré, pas dire gonflé, entre guillemets, c'est un mot un peu familier, mais que j'emploierais. Je pense que le maire de Fouillouz, avant de réfléchir à présenter sa candidature, devrait présenter ses excuses. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas acceptable.
Patricia Vincent, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1 dans le 8h30. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale dans les Hautes-Alpes. Merci.
Merci.